Je suis Anne-Marie Jobin et je suis art-thérapeute.
Je suis art-thérapeute.
Je suis art-thérapeute.
Je suis art-thérapeute.
Bonjour et bienvenue au podcast « Je suis art-thérapeute », le podcast où on va à la rencontre des art-thérapeutes qui nous inspirent au Québec afin de leur donner une voix et faire rayonner notre profession chérie qui est l'art-thérapie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est avec un mélange de fébrilité, de curiosité, d'admiration que nous accueillons notre prochaine invitée, car c'est une art-thérapeute qui s'est beaucoup, beaucoup distinguée au Québec et à l'international de par ses multiples publications et formations. En tout, c'est 7 livres qu'elle a publiés, dont elle a vendu plus de 85 000 copies. Ce n'est pas rien. Initialement formée au Vancouver Art Therapy Institute pour apprendre le métier d'art-thérapeute, elle a œuvré dans le domaine quelques années avant de prendre un chemin qui est bien à elle et qui s'éloigne des sentiers battus. Et nous lui en sommes très, très reconnaissantes d'avoir osé sortir des sentiers battus, car c'est elle qui a créé, développé et fait connaître le merveilleux outil qu'est le journal créatif. Et oui, nous parlons en effet de Anne-Marie Jobin, auteure du célèbre livre « Le journal créatif » qui est maintenant une marque de commerce reconnue légalement au Canada et en Europe. Elle a d'ailleurs fondé le centre de formation en journal créatif en 2004 et à ce jour, 20 ans plus tard, c'est plus de 800 personnes qu'elle a formées en accompagnant par l'utilisation de sa méthode. Mais quand on y pense, c'est probablement aussi des milliers de personnes qu'elle a pu aider à se connecter à elles-mêmes et à leur créativité. Bref, je pense que vous comprenez notre emballement d'avoir la chance de l'interviewer aujourd'hui. Et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous durant cet épisode. Donc, Anne-Marie Jobin, bonjour!
Bonjour! Je suis aussi très contente d'être ici avec vous.
Merci de nous recevoir dans ton atelier aujourd'hui.
C'est très inspirant de voir où tu travailles, d'être imprégnée de ton univers. Et c'est vraiment... en tout cas, on est reconnaissante de pouvoir partager un petit peu l'univers de Anne-Marie Jobin aujourd'hui. Merci.
Merci à vous de vous être déplacée.
Alors, on pourrait enchaîner avec une première question. On serait curieuse de connaître ta première rencontre avec l'art-thérapie. Qu'est-ce qui a stimulé ton intérêt envers cette profession et comment elle a influencé la création du journal créatif?
Ma première rencontre avec l'art-thérapie, c'était en 1990. J'avais 27 ans. Puis, je connaissais absolument rien de l'art-thérapie. Mais depuis l'adolescence, je tenais un journal. J'étais vraiment quelqu'un qui était très régulier dans son journal, mais je faisais seulement qu'écrire parce que je ne me trouvais pas artiste. Puis j'avais des amis très artistes qui dessinaient bien, puis j'aurais aimé ça dessiner comme elles, mais je me contentais de l'écriture, disons. Puis je suis tombée sur un livre en 90 de Lucia Capacchione, une art-thérapeute américaine. Et c'était sur le journal créatif. C'est dans un journal qu'elle faisait de l'art-thérapie. Donc, je tourne le livre, puis je vois la description de qu'est-ce qu'elle faisait. Ça disait qu'elle était art-thérapeute. Je me dis, ah, c'est quoi ce truc-là? J'ai commencé à travailler avec deux de ses livres, puis en autodidacte, là, dans mon journal. Mais j'avais encore un journal avec des lignes, donc je faisais mes dessins sur les lignes. Elle utilise beaucoup la main non dominante, elle utilise beaucoup l'enfant intérieur. Donc, je faisais toutes ces expérimentations-là, puis j'ai vraiment... adoré ça, j'ai vraiment débloqué en fait au niveau de je me suis rendu compte que dessiner, t'as pas besoin de dessiner de façon réaliste ou même expressive là, quelqu'un qui crie de telle façon, j'ai vraiment compris qu'un trait ça parle puis que c'est un autre langage complètement que les mots. Donc je suis devenue fébrile avec ça, excitée, puis je me suis dit, j'étais déjà à Vancouver, je travaillais là-bas. Puis j'ai demandé à quelqu'un autour de moi, connaît-tu ça? Puis il a dit, mais oui, il y a un institut à Vancouver, il y avait une amie. Donc j'ai appelé son amie, je me suis rendue à l'institut, puis j'ai commencé tout de suite la formation, puis ça m'a complètement emballée. Parce que c'est comme si je découvrais le monde de l'art de façon simple et expressive et spontanée, et je pouvais travailler mes rêves de nuit. J'aimais beaucoup travailler avec mes rêves de nuit. Je pouvais travailler l'émotionnel, n'importe quoi, avec des traits de couleur, avec de l'argile, avec du grand papier, avec du collage, puis je m'éclatais complètement. Mm-hmm. Puis on entrait tout de suite en stage à l'époque, là, à l'Institut d'art thérapie de Vancouver. Donc, j'ai commencé à pratiquer ça avec des enfants, avec des personnes handicapées, avec des hommes sidéens, avec... Mm. Puis là, j'ai comme vraiment, vraiment compris le pouvoir de l'art, mais de façon très, très organique. Là, je le sentais, je le voyais à l'œuvre, je le sentais sur moi, je le voyais dans mes collègues de classe. On avait une session d'art thérapie pour nous chaque semaine. Puis je voyais ce que ça leur faisait, je voyais des déblocages. Je comprenais mieux plein d'affaires sur mes rêves de nuit. Ça bougeait là, dans ma psyché, ça débloquait des choses. Au niveau de la créativité, ça a vraiment ouvert. J'ai arrêté d'être inhibée au niveau, justement, du dessin puis de l'expression. Puis, c'est ça, j'étais emballée. Ça fait que j'ai fait la formation qui a duré 2 ans et demi. Puis après ça, je suis revenue au Québec. Puis c'est là que c'est devenu plus compliqué pour moi parce que je savais pas trop quoi faire avec cet outil-là vraiment... Mm-hmm. Puissant que j'avais découvert. Puis je continuais mon journal écrit à côté. Je mélangeais pas tellement. J'avais mélangé un peu au début avec Lucia Capacchione. Puis là, j'avais plus séparé. Je faisais mon art-thérapie en grand format. Puis je faisais mon journal écrit à côté. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ça serait bien que ça se mélange plus. Mm. On était rendu, j'ai fini en 94, là, la formation. Je suis revenue en 94. Puis, j'ai pris un atelier ici à Granby, un petit atelier dans l'ancienne usine de l'Imperial Tobacco où j'ai été finalement 27 ans. Mm-hmm. Je viens de quitter là, l'année passée. Puis là, quand j'ai trouvé l'atelier, je me suis vraiment sentie chez moi. Puis j'ai continué mon processus personnel d'art-thérapie. Les sessions qu'on faisait sur nous, j'ai continué. Je prenais tout en photo. Puis je faisais du journal sur mes créations. Puis j'ai commencé à donner des ateliers d'art-thérapie, mais très, très, très petits. Mais j'étais plus concentrée sur qu'est-ce que je vais faire avec cet outil-là, puis je prenais du travail à côté, parce que ma formation de base, c'est en travail social. Donc, j'ai repris des contrats de travail social, j'ai pris toutes sortes de jobs ordinaires aussi pour arriver. Puis je faisais des ateliers d'art-thérapie, mais quelques fois par année, j'avais 2-3 clientes, là, c'était vraiment minimal. Parce que j'avais pas encore vraiment intégré qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mm. J'ai eu des contrats dans un centre de jour en santé mentale ici à Granby. J'ai aussi eu des contrats dans des centres de femmes. C'est comme ça que j'ai commencé en journal créatif aussi, là. Je mélange un peu les époques. Mais en gros, j'étais en exploration puis j'étais un peu bloquée. Maintenant, je dis que j'étais en compostage. Je raconte tout ça dans le livre « Créer la vie qui vous ressemble ». Mais c'était long. Puis, c'est en 98 que j'ai vraiment débloqué. Puis, c'est avec le livre, un autre livre, une autre auteure américaine, c'est Julia Cameron, Libérer votre créativité. J'ai fait les pages du matin pendant 3 mois, un été où je travaillais pas. Puis là, tout a débloqué. J'ai vu clair. C'est parce que j'ai comme vu que... C'est comme si pendant ma formation en art-thérapie, j'avais conclu que l'art, c'était plus puissant que l'écriture. Le journal personnel, c'était juste un à côté, là, un petit truc écrit à côté. En art-thérapie, on ne se servait pas vraiment d'un journal. On prenait des notes sur ce qu'on faisait. Fait que mon journal était un peu devenu « ça se met dans mon sac, c'est plus facile ». Mais quand je donnais des ateliers d'art-thérapie en santé mentale, je me disais « je ne suis pas capable de faire ça toute la semaine ». Mmh. Je suis trop sensible à l'image. C'était vraiment ça ma réflexion. Ben maintenant, je le vois comme ça. J'ai comme une hypersensibilité à l'image. J'écoute pas la télé, presque pas. J'écoute pas de films, surtout pas des films d'horreur ou des films d'action, parce que toutes les images me restent. Puis ça se produisait avec les clients que j'avais en santé mentale. C'était souvent très souffrant. Qu'est-ce qu'ils dessinaient? Puis là, les images me restaient, puis je savais plus comment les enlever de ma tête. Puis là, je me disais, bon, je fais un atelier par semaine, ça va. Là. Je prenais ma douche, je faisais toutes sortes de... J'allais marcher dehors pour me remettre juste avec moi, puis de pas prendre le monde intérieur des autres à l'intérieur de moi. Donc, je me disais, comment je vais faire pour faire ça toute la semaine, pour gagner un revenu complet avec ça? Mm-hmm. Puis le processus thérapeutique de pratique privée, je trouvais que c'était trop engageant parce que j'avais l'impression que la personne avait plus besoin de moi, que je pourrais pas prendre des vacances, des trucs comme ça. Je trouvais que c'était, mon Dieu, comment je vais faire pour m'engager auprès des gens? Puis parce que moi, j'ai toujours été passionnée, je voulais bouger, je voulais aller où je voulais, je voulais être libre. Là,
un esprit nomade, un peu.
Oui. Fait que tout ça me faisait poser des questions. Je me disais, est-ce que c'est vraiment ma place? J'ai tellement aimé ça, puis je ne suis pas capable de l'articuler en profession, pour l'instant, en tout cas. Je me disais, peut-être que je manque de maturité, peut-être que ça va venir avec le temps. Puis j'en faisais un peu. C'était beaucoup aussi des trucs organisés avec une de mes cousines qui organisait un groupe dans son école de massage, que je vais aller chez elle, je vais le faire. Ma mère avait organisé avec ses amis, j'avais fait un petit atelier plus connaissance de soi léger là, chez mes parents. Je faisais des trucs comme ça, mais je sentais que vite, j'arrivais au bout de qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis quand j'ai fait les pages du matin en 98, j'ai vu le pouvoir de l'écriture. Mm-hmm. C'est comme si tout à coup, j'ai vu à quel point c'était pas inférieur, entre guillemets, à l'art, c'était différent. C'est complémentaire. Parce que quand on va dans l'écriture automatique, comme les pages du matin, quand les messages arrivent de la partie de nous qui est plus grande, plus éclairée, plus vaste, plus inconsciente, tout ça, c'est très puissant parce que c'est très clair. Puis là, la voix sortait, le message arrivait, puis il me disait « Voici ce que tu vas faire, tac, tac, tac. » Puis c'était très, très clair. Puis j'ai été... Bon, je pense que c'est de la 8e semaine qu'on relit nos cahiers, là. Puis là, je me rappelle d'avoir dit à une amie « J'ai trouvé ce que je vais faire. » J'ai repensé au journal. J'ai dit « Je vais amener l'art thérapie dans le journal, mais de façon beaucoup plus approfondie que qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. » Puis j'ai tout de suite commencé au Centre des femmes à Cowansville à l'automne 98. Avec du journal créatif. Puis au début, je me suis beaucoup appuyée sur Lucia Capacchione. Je prenais ses livres, je regardais ça, je regardais qu'est-ce que moi je fais dans mon journal. Puis j'ai commencé avec ça. Puis ça a tout de suite marché. Puis tout de suite, le premier atelier que j'ai donné, puis j'en ai donné aussi à l'atelier ici à Granby, à mon compte, là, des petits groupes de 4-5 personnes. Tout de suite, je me suis dit, OK, ça, c'est ma place. Mm. Parce que je ne vais pas trop loin. Les gens sont dans leur cahier. Je ne vais pas dans le thérapeutique. Je ne suis pas confrontée aux images... Aux images trop fortes. Des fois, quelqu'un peut partager sa page, puis tout ça, je suis capable de gérer ça, là, mais c'était beaucoup moins intense. Puis c'était plus un objectif, pour moi, pédagogique que thérapeutique. Donc, j'avais l'impression de transmettre un outil aux gens. Voici ce que vous pouvez faire dans votre journal si vous êtes anxieux, si vous avez des symptômes physiques, si vous êtes malade, si vous vous réveillez la nuit, faites de l'insomnie. Puis vous allez pouvoir vous-même trouver des façons de vous réguler, de vous apaiser, tout ça. Donc, j'avais vraiment l'impression... Puis c'est comme si je retrouvais un peu ma fibre de travailleuse sociale à travers ça. C'était comme rendre les gens autonomes, transmettre un outil. Mais évidemment, les gens, ils voulaient continuer après 8 semaines, 12 semaines. Qu'est-ce que je vais faire toute seule? Ils n'étaient pas encore autonomes avec l'outil. Alors, tout de suite, j'ai voulu écrire le livre qui irait avec l'atelier. Pour que les gens puissent continuer par eux-mêmes. Mais ma mission est devenue vraiment transmettre des outils pour que les gens puissent s'ancrer.
Une notion d'empowerment un peu.
Oui. Puis les gens, ils me disaient ça, là, les femmes qui travaillaient en centre de femmes, ils disaient que ça marche super bien avec l'approche féministe, c'est tellement... Puis je disais, c'est tant mieux, là, parce qu'il n'y a pas de dépendance qui se crée. Puis ça n'enlève pas du tout l'importance de se faire suivre avec un thérapeute de temps en temps, ou au besoin, ou quand on a des gros trucs, là. Mais il reste que ça donne un outil très, très concret qui ne coûte pas cher, que n'importe qui peut utiliser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Oui. Puis on me l'a vraiment dit aussi souvent, c'est que les gens, ils me disaient, moi, je travaille dans un centre de jour en santé mentale, on est fermé la fin de semaine. Quand le lundi arrive, les personnes me disent, j'ai fait de l'insomnie samedi, j'ai fait des mandalas ou j'ai fait tel truc dans mon journal. Puis ils sentaient que... Il y a quelque chose qui se développe qui donne le pouvoir à la personne de s'autogérer aussi, mais de trouver ses réponses soi-même. Mm-hmm. Parce que c'est aussi ça que dans le rapport thérapeutique, des fois, les gens attendent le rendez-vous pour ventiler, puis avoir quelqu'un qui écoute, puis gagner de la perspective, trouver les réponses.
Oui.
Tandis que là, il y avait... c'est complémentaire, comme je disais. Donc, il y avait déjà quelqu'un qui soutient, mais entre les rencontres, on peut faire un bout. Puis on peut se trouver nous-mêmes une réponse à une question, puis tout à coup, mais je peux les trouver si je me calme, si je dessine, je mets une petite musique, j'écris, puis tout à coup, je trouve, je me dessine mon sage, je le fais parler. Toutes ces techniques-là font que les gens, tout à coup, ils sentent leur propre ressource.
Oui.
Ils sont pas juste en victime, ou j'ai besoin d'aide tout le temps, ou je peux trouver si j'ai des outils. Donc, c'est devenu un peu ça, ma mission. C'est pour ça que j'ai appelé l'école Jet d'encre, qui était le nom avant, c'est encore le nom, là, avec Centre de formation journal créatif. C'est des outils pour jeter l'encre en soi, puis mm-hmm. trouver soi-même. C'est comme si... J'utilisais souvent l'image que notre vie, c'est comme je mène mon bateau, puis des fois, il y a de la tempête, l'eau n'est pas calme, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus d'où je viens. Puis quand j'ouvre mon journal, c'est comme si je dépliais ma carte, je suis rendue où sur ma carte? Puis là, je jette l'ancre pour calmer, me calmer, mm-hmm. puis connecter avec le fond, connecter avec les profondeurs où c'est plus calme. Puis là, je dis, OK, je suis là, ça va, je vais survivre, je me calme, où je veux aller, puis là, je me remets, je me réaligne avec où je veux aller, puis je replace mon bateau. Fait que pour moi, je voyais comme le journal, c'est ça, son but, c'est jeter l'ancre. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé avec notre ancre, on jette l'ancre. Tout ça, là, c'est pas un jeu de mots toujours facile.
Mais je trouve ça vraiment intéressant de t'entendre, Anne-Marie, sur aussi ton... Dans le fond, ce que j'entends dans ce que tu viens de nous raconter, c'est ton processus de création d'une identité comme professionnelle, comme art-thérapeute. En tout cas, moi, ça me rejoint beaucoup. Les questionnements que tu nous as partagés, que tu avais au début, je les ai vécus. Je suis pas mal certaine que Marie-Soleil, toi aussi, que bien oui, les auditeurs qui ont passé par la formation ont... on parlait un petit peu plus tôt hors ligne que finalement en art-thérapie, il existe peu de sentiers battus. On est encore à une grande croisée des chemins au niveau de la reconnaissance professionnelle. Donc, je trouve ça beau de voir ton processus de création d'identité puis de voir à quel point, au final, tu es devenu ton propre sage intérieur puis tu as écouté cette voix-là.
Ben, je trouve ça même amusant que mon deuxième livre, il s'appelait « La vie faite à la main », le premier titre, oui. qui a été changé pour créer la vie qui vous ressemble. Mais ça, c'était 2006, puis je me dis « Ah, mais j'ai vraiment fait ça, en fait. » Ce que je dis dans le livre, c'est ça que j'ai fait avec ma vie, c'est comme je l'ai fait à la main. Puis c'était une étape à la fois, puis j'ai rien planifié, là. Au début, il y avait du monde qui disait « Va faire une formation de développement des affaires, tu vas faire un plan d'affaires. » Je voulais pas faire un plan d'affaires. Je sais pas, je vais juste semer des graines, puis on va voir qu'est-ce qui pousse.
Oui.
Puis j'essayais tout le temps de rester connectée à moi pour voir qu'est-ce qui me tente, puis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, parce que il y a moi, qu'est-ce qui me tente, mais il y a le monde, comment le monde répond à qu'est-ce que j'envoie. Mm-hmm. Puis je pouvais envoyer quelque chose que ça répond pas, puis j'envoie quelque chose qui répond. Puis le journal créatif, ça a beaucoup répondu parce qu'au début, mon premier site web s'appelait annemariejobin.com parce que je me disais, ben, je changerai probablement pas de nom, tandis que mes activités, ça peut changer. Puis je voulais faire journal créatif. J'avais comme trois branches, journal créatif, art-thérapie, puis créativité. Donc, je donnais des ateliers d'écriture créative. J'aimais vraiment les jeux d'écriture. Ça, c'est ça qui est arrivé aussi en 98. Quand j'ai commencé en appuyant sur Lucia Capacchione, j'ai tout de suite voulu avoir des jeux d'écriture, des jeux de surréalisme, de collage, mettre du plus de léger là-dedans. J'ai tout de suite voulu développer un peu les contes, les archétypes, les personnages qu'elle, elle n'avait pas dans ses livres nécessairement. Donc, j'ai comme rajouté plein de... Puis je travaillais beaucoup avec le corps, la silhouette, avec les formes symboles. Bon, fait que là, j'ai rajouté tout ça, ce qui a fait partie du premier livre, qui a eu trois éditions depuis, là, 2002, 2010, 2020. Puis c'est comme si c'était vivant, la méthode. Puis à chaque fois, je rajoute des affaires. Puis je l'explique mieux, je trouve, de mieux en mieux. Là, comment ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce que ça fait. Puis même avec les neurosciences, là, je comprends mieux pourquoi ça marche comme ça avec, avec les différentes modalités qui fait qu'on fait plus de connexions. Fait que c'est intéressant de voir comment ça se développe. Je pense que j'ai un petit peu perdu mon fil. De quoi je parlais avant de partir là-dessus?
Il y avait sur ton site Internet trois volets.
Oui,
est-ce que
ces
volets-là existent encore?
Non, okay. Ben non, c'est Journal Créatif qui a pris toute la place.
C'est ce que j'allais dire.
Il y a un moment où j'ai changé pour journalcréatif.com.
Oui, oui, oui.
Parce que, puis je faisais encore de l'art thérapie au début, on était rendu en 2010, j'en faisais encore, je faisais des deux jours d'initiation pour démêler ça aussi. Là, les gens, ils mêlaient tout, Journal Créatif, art thérapie. Je faisais des deux jours, je faisais des journées où je prenais moins de monde, je prenais juste 6 à 8 personnes, puis je faisais une journée plus comme j'avais été formée. Je l'ai faite longtemps, puis j'avais ces trois... puis j'avais des semaines complètes d'écriture créative à l'École d'été de Mont-Laurier, puis... fait que c'était vraiment mes trois volets. Puis mon troisième livre, j'ai voulu que ça soit tous les jeux qui soient là-dedans, le collectif, les enfants, tout ça, je l'ai mis dans le troisième. Fait que mes livres, ils suivaient un peu mes élans comme ça, puis tout à coup, Journal Créatif a pris plus de place, plus de place, plus de place. parce que les gens ont voulu être formés. Donc, j'ai rien planifié de tout ça, en fait, au début. Je pensais pas former du monde. C'est les gens qui me disaient, mais moi, je voudrais être formée parce que je travaille dans une école puis je voudrais faire ça avec les jeunes. Mm-hmm. Puis là, quelqu'un d'autre le demandait. Puis quand ça faisait 3-4 personnes qui demandaient, j'ai dit, ben, peut-être, je pourrais former les gens à ça.
C'est fascinant comment les choses peuvent être très organiques, finalement. Ça gravite vers nous, on gravite vers. Mais là, je pose un peu la question qui suit là, par rapport au journal créatif. Je me demandais, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi le journal créatif? Est-ce que tu pourrais un peu nous donner ta définition?
Oui, j'ai une définition que je peux faire rapidement. Là, c'est vraiment un journal personnel. Donc, c'est dans un cahier. Pas de ligne, parce qu'on dessine beaucoup et on fait des collages. Avec de la créativité. Fait que c'est le journal personnel où il y a de la créativité. Puis déjà, avec trois langages, parce qu'on a dessin, écriture, collage, c'est déjà plus créatif qu'un journal conventionnel où on fait juste écrire. Mmh. Puis en plus d'avoir trois langages, on a aussi des techniques de créativité, des techniques inhabituelles, des toutes sortes de façons inhabituelles de travailler qui fait que on utilise plus toutes les parties du cerveau puis toute notre être parce que si je suis à court de mots, je passe au dessin. Si je suis à court de je sais pas quel dessin faire, je passe aux images, je peux prendre des papiers, je peux aller dans les techniques mixtes. Je peux m'inspirer du journal d'artiste, faire vraiment des pages avec plein de couches puis plein de textures. Puis je peux rester très simple dans de l'écriture avec un peu de couleur autour. Il y a vraiment... c'est vraiment un outil qui est très flexible puis qui va chercher différents types de personnes. Fait que les gens qui sont habitués au journal plus conventionnel, plus écrit, ils peuvent garder leur habitude puis tout à coup ajouter un peu d'or pour justement sortir de leur sillon. Là. Parce que quand on fait juste écrire, on se répète. Il y a un moment, en tout cas, moi, mes journaux qui sont juste écrits, là... J'ai du mal à les relire, puis j'ai commencé à m'en débarrasser. Puis quand ils sont aussi dessinés, puis là, en plus, avec des techniques mixtes puis des techniques plus artistiques, je les trouve beaucoup moins difficiles à lire parce qu'ils sont intéressants à regarder aussi. Mm-hmm. Puis souvent, l'écriture plus personnelle est maquillée, est camouflée, est illisible. Fait que les derniers 10 ans, 15 ans de cahier, j'ai moins peur de mourir... subitement, puis de les laisser derrière parce qu'en fait, sont agréables à regarder. Tandis que les premiers 20 ans, juste écrits, mm-hmm. ils sont vraiment c'est plus tout le mental, là, tout ce qu'on se raconte, mm-hmm. puis l'émotionnel, puis ça tourne beaucoup en rond. Fait que c'est un peu déprimant à lire, honnêtement. J'ai les cahiers de ma mère qui est décédée en 2019, puis c'est juste écrit. Puis quand je lis ça, j'ai l'impression de rentrer dans sa tête puis dans son émotionnel, puis mm-hmm. c'est pas très agréable, en fait. Mm-hmm. Ça donne plein d'infos sur quelqu'un. Fait que là, je me dis, brûle les tiens avant de... Mm-hmm. Fait que tout ça est intéressant avec le journal intime, là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos vieux cahiers? Fait que c'était une petite parenthèse. Mais oui, c'est ça. Le journal créatif, c'est un journal personnel, mais avec d'autres médiums, d'autres langages, puis de la créativité. Ce qui fait que c'est hyper dynamique, puis c'est très porteur de vie. C'est comme si l'énergie créative se réveille avec ce processus-là. Puis l'énergie créative, pour moi, c'est l'énergie de vie. Mm-hmm. Donc, mes envies, mes élans, mes couleurs, ça se réveille, puis ça redevient fluide. Tandis que je trouve que avec un journal conventionnel, juste écrit, des fois, on va avoir tendance à repasser tout le temps les mêmes traces.
Sillons, comme tu disais plus tôt.
Ouais.
Moi, ça me parle beaucoup aussi, si je peux me permettre de commenter, parce que ça a été un peu mon cas. Je tenais un journal intime écrit depuis vraiment longtemps, puis quand je suis tombée sur ton livre au départ, c'est comme si... Ah, vent de fraîcheur, soudainement, je pouvais comme descendre dans un endroit plus profond à l'intérieur de moi, où est-ce que j'avais accès à une autre sphère, finalement, qui est beaucoup plus sage que le verbal, le continu, le mental, qui nous fait répéter souvent les mêmes cassettes, là, comme tu disais plus tôt. Puis ça a une fonction aussi, faut pas l'oublier, là, la fonction de juste ventiler, puis de se libérer de ce trop-plein-là, mais c'est comme si on a accès à des dimensions de notre être qui sont plus sages. C'est le mot qui me vient.
Mm-hmm. Plus vaste. Ouais, moi, j'appelle ça le plus vaste au lieu de... Mais c'est l'inconscient.
Oui.
C'est comme les rêves. Je le compare souvent aux rêves de nuit. Mm. Si j'ai une image d'un tigre qui me court après dans mon rêve, j'ai pas réfléchi à ça de façon rationnelle. C'est une image qui a émergé. Mm-hmm. Mais quand je dessine spontanément dans mon cahier, il arrive plein d'affaires qui émergent. Là, je voulais dessiner telle affaire, puis là, c'est ça qui est sorti, puis ça ressemble à une araignée, puis là, je vais la faire parler. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe que jamais, qui se serait jamais passé, j'avais écrit « Je me sens comme ça ce matin, blablabla ».
Voilà.
Mais ça n'enlève pas que l'écriture, quand elle est vraiment ancrée dans le profond, là, elle peut être vraiment puissante aussi. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que ce qui est le plus puissant, c'est la combinaison des langages.
Oui.
Ce qui rejoint les théories en neurosciences, que quand on a du multimodal, puis en plus, avec le journal, on peut se lever puis danser, puis on peut mettre la musique, puis on peut chanter, puis on peut faire parler nos personnages, on peut amener d'autres modalités aussi. Mais disons que la base, c'est vraiment un cahier avec des arts visuels plus. Mais le fait de changer de modalité, quand j'arrive, je sens que je tourne en rond, même en dessinant, je peux sentir que je tourne en rond, ben, je vais faire parler mon dessin, puis je vais écrire autour dans tous les sens, je vais percer un trou dans ma page, je vais aller sur la page suivante, continuer l'écriture, puis là, je pars comme en voyage dans l'imaginaire, puis je suis mon fil, puis tout à coup, j'ai l'effet de « Ah, ça fait du bien mon journal ce matin », parce que j'ai pas toujours l'effet de bien-être. Des fois, je peux rester en superficie, mais il reste que quand je reste dans un processus, que je suis mon fil, que je prends le temps de me centrer avant, ben j'ai un effet vraiment bénéfique. Après une demi-heure ou 15 minutes, ou même 5 minutes, on peut tout de suite avoir l'effet. C'est ça qui fait du bien, c'est ça qui fait que c'est un outil qu'on veut... Comme si on faisait une marche en plein air ou un peu de yoga ou quelque chose, on a un effet.
Absolument.
Ben, avec un journal, on a un effet avec l'expression, on gagne la distance. Des fois, je dis, pour moi, il y a 4 clés pourquoi ça fait du bien. Je m'exprime, donc l'énergie qui est en dedans de moi sort. Donc, il y a comme un effet de catharsis. Je prends de la distance. Qu'est-ce que je sens est sur la feuille au lieu d'être tout dans moi? Après, je suis en relation avec ce qu'il y a sur ma feuille, donc j'appelle ça l'effet miroir. Je comprends mieux ce qui se passe en dedans de moi parce que je vois ce qu'il y a sur la feuille. Puis le dernier point, c'est que je développe une relation avec ma vie intérieure. Puis ça fait que dans ma vie concrète, après, je suis plus solide parce que je sais que s'il arrive quelque chose, j'ai une vie intérieure riche, je peux me connecter, puis je vais trouver. Je vais trouver des ressources. Puis ça veut pas dire que j'ai jamais besoin d'aide, mais ça veut dire que je sais un peu plus qui je suis puis qu'est-ce que j'ai comme ressources.
Oui.
Donc, n'importe quelle chose, drame, n'importe quoi qui arrive dans la vie, je sais que j'ai mon journal, j'ai des ressources, je peux me connecter, puis je vais traverser, là, je vais pas tomber dans un trou sans fin. Fait que c'est intéressant pour ça aussi. Je trouve que c'est... Pour moi, c'est les 4 clés. C'est la même chose en art-thérapie, c'est les mêmes 4 clés. Là. On exprime, on prend de la distance, on réfléchit, là, on a l'aide de quelqu'un pour réfléchir à ce qu'on a produit. Puis on développe un lien avec notre créativité et notre vie intérieure.
La différence que je verrais avec l'art-thérapie, c'est la fameuse triade hein, de l'art-thérapie, client, art et thérapeute. Bien, dans le fond, le journal créatif, c'est plus une relation qui se passe entre l'art et le client, ou en tout cas la personne qui crée, le créateur. Donc, il y a juste comme une ligne de moins que...
Oui, mais... C'est très important d'en parler de la différence, là, parce que il y a plusieurs différences. Moi, j'ai toute une liste de différences quand je le présente.
Okay.
D'abord, on travaille dans un cahier avec des médiums plus secs. C'est très contenant comparé à du grand papier.
Oui, c'est vrai.
Puis on est tout seul avec notre processus.
C'est ça.
Fait que c'est complètement un autre cadre. C'est pas un cadre thérapeutique, c'est un cadre d'auto-soin, puis d'expression, puis de sa propre créativité. Puis je suis tout seul avec mon cahier, ce qui fait que si j'arrive dans une zone que je ne veux pas travailler, il n'y a personne qui va rien dire, je peux tourner la page. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes mécanismes de défense. Si je m'endors sur ma page, je n'ai pas envie d'aller là, je n'y vais pas aujourd'hui, j'irai un autre jour. Tandis que quand on travaille avec quelqu'un, ben on a un témoin. On a quelqu'un qui voit qu'on est en train de faire ça, puis qui va peut-être poser une question, puis qui va peut-être nous aider à traverser. Donc, pour moi, c'est vraiment complémentaire, mais c'est ça. Il y a beaucoup de différences... Le cadre. C'est vraiment le cadre, c'est ce qui résume le mieux. Le cadre thérapeutique avec quelqu'un, puis comme tu dis, avec le triangle, quelqu'un qui nous accompagne.
La relation thérapeutique qui s'établit entre les deux personnes. Moi, je pense que c'est important qu'on touche à ce point-là. J'ai l'impression qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon de ce qu'est le journal créatif. Tu as tellement de beaux livres sur le sujet. Je pense que les auditeurs ont vraiment de quoi se nourrir dans tes publications. Nous, aujourd'hui, on avait envie de s'intéresser aussi à l'art-thérapeute. qu'il y a derrière cette grande œuvre qui est le journal créatif et ton école de formation. Tu nous as parlé un petit peu plus tôt de tes premières années de pratique comme art-thérapeute. On était quand même curieuse de savoir si, dans tes premières années de pratique, que tu avais accompagné certaines problématiques en particulier, si tu avais eu comme des coups de cœur pour certains clients. Est-ce qu'il y a des choses que tu as comme transférées mais je sais en fait qu'il y a plein de choses que tu as transférées dans ta création du journal créatif, mais disons, tu sais, d'un point de vue clinique, ton expérience clinique, qu'est-ce qui t'a marqué de ces premières années-là? Tu nous as parlé de ton hypersensibilité un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu, par exemple, des clientèles avec lesquelles tu as aimé travailler en particulier?
Ben, j'ai beaucoup aimé travailler dans les centres de femmes. Ça, c'est sûr que c'était... Pour moi, c'était facile, les centres de femmes, parce que c'était tout du monde qui aimait les mêmes choses que moi, qui voulait plonger, tout ça. Puis c'était très varié comme sorte de femmes. Il y avait toutes sortes de femmes, puis tout ça. Fait que ça, c'était le plus facile. J'ai beaucoup aimé... J'ai pas fait beaucoup en art-thérapie, j'ai fait plus en journal créatif, mais en oncologie, j'ai beaucoup aimé ça.
Ah oui?
Je faisais tous les hôpitaux sur la Rive-Sud, là.
Ah oui?
Wow. Puis je faisais des ateliers de 2 heures, mais c'était plus journal créatif. Mais ça m'a marqué, puis c'est allé dans mes expériences préférées aussi, là. C'est comme faire un travail de créativité avec des gens qui sont dans des situations de vie difficiles puis épeurantes, là. Mm-hmm. Puis tout à coup, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un cahier. Ça, je sors un peu de l'art-thérapie. Sinon, j'ai travaillé un peu avec des jeunes, je trouvais ça moins facile, des ados, là, des jeunes adultes, je trouvais ça moins facile. Puis j'ai travaillé surtout et beaucoup avec du tout public, là, qui c'est surtout des femmes aussi, longtemps, mais... Donc, c'est à peu près ça, le mélange. Bon, en santé mentale, j'ai dit plus difficile, parce qu'il y avait plus de... C'était quand même un centre de jour avec plein d'intervenants sur place, ce qui fait que je pouvais quand même me permettre d'aller assez loin dans mes ateliers. S'il y avait un problème, il y avait leur intervenant à l'étage, ils montaient. Mais ça s'est toujours très bien passé. J'ai aimé ça aussi, mais je peux pas dire que c'est ma clientèle préférée. C'était très mélangé aussi comme problématique. Là. Ils pouvaient avoir autant... C'était tous des gens qui fonctionnaient, là. Ils n'étaient pas à l'hôpital, là, mais ils pouvaient avoir autant des problèmes de dissociation que des dépressions, que des... Donc, c'était plus... j'avais plus l'impression qu'il fallait que je marche un peu sur des œufs, là. Mm-hmm. Puis il y avait plus d'images difficiles, là.
D'images de contenu plus graphique, on pourrait dire, oui. C'est super intéressant, puis je trouve que ça démontre bien un petit peu les premières années d'art-thérapie qu'on a tous traversées avec la variété de clientèles, de problématiques, de milieux, de travail. Là.
J'ai fait mon mémoire sur les images de transformation positive dans l'art des personnes qui avaient le sida, là, séropositive. Puis... ça, j'ai aimé ça aussi. J'ai trouvé ça super intéressant, tout le parcours de ces personnes-là. C'était les années 92 à peu près. Là. Il n'y avait pas encore la médication qu'il y a maintenant, ce qui fait que les gens ils étaient plus malades et mourants. Là. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi très, très intéressant. Après ça, j'avais fait des stages aussi avec les enfants. J'ai trouvé ça plus difficile que les adultes. Fait que c'est ça en gros, là.
Ça me semble quand même assez diversifié, puis je me demandais si ça t'arrivait des fois de t'ennuyer de pratiquer comme art-thérapeute.
J'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Mais des fois, j'y pense, je me dis « Ah, quand je vais être vieille, peut-être que je pourrais en refaire ou du 1-1, là, parce que c'est sûr que... » Mais j'ai vraiment du mal. J'ai plus de facilité avec les groupes, avec les petits groupes, qu'avec l'individuel. Donc, je le sais pas. Des fois, je vais voir une personne qui va insister, que je vais dire ben, « OK, je vais te voir juste une fois, on va faire un petit parcours ensemble, mais je la réfère. Puis j'ai pas beaucoup de... Ça me prend énormément d'énergie, en fait. Tandis que le groupe, on dirait que je suis dans un autre rôle, je vois à l'ensemble, puis ça me prend moins d'énergie. Puis j'ai des assistantes là, dans la formation, donc les assistantes, les adjointes qui s'occupent des individus. Moi, je me vois juste au grand groupe. Puis pour moi, c'est ça qui marche le mieux. c'est là que je me sens plus dans mes forces. Donc, je sais pas, c'est sûr que des fois, je me dis, ah, peut-être qu'un jour, parce que je rêvais un peu d'avoir un atelier dans le bois, là, je vous disais, quand on commence. Puis j'imaginais des petits groupes de 6, de 8, puis de faire vraiment quelque chose qui va plus loin. Je l'ai fait un peu avec le travail du deuil, où là, j'avais des plus petits groupes, puis j'en ai annulé un cet automne, il devait avoir juste 3-4 personnes, puis je m'étais dit, ah, ça va être... J'ai quand même un intérêt, là. Ça va être super de faire avec un mini-groupe, on va pouvoir aller plus loin. Parce que c'est sûr qu'en grand groupe et en journal créatif, on reste toujours dans un cadre plus pédagogique. On va moins loin dans le, dans le processus personnel intérieur de chaque personne. Donc, j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer parce que j'ai trop de choses à faire, mais j'y pense des fois que j'aimerais surfaire des petits groupes puis des processus un peu plus en profondeur. J'ai aussi beaucoup travaillé, j'ai pris plein de cours, j'étais comme en processus de formation pour ça, mais le programme a arrêté, avec le travail de Byron Katie, qui est le travail avec les pensées, puis qui peut vraiment aller très loin aussi, puis je le combine avec du journal créatif. Fait que ça, c'est sûr que j'ai en tête que j'aimerais ça faire des tout petits groupes. Là, je le fais, mais j'ai beaucoup de demandes, fait que c'est dur de faire des petits groupes. J'essaie de répondre à la demande. Fait que je le fais en co-animation, mais on prend quand même 16 personnes. Mais ça, c'est un travail qui peut se faire en plus petits groupes, puis que j'ai en tête qu'un jour, je pourrais peut-être aussi faire des groupes de 8, de 6, puis on va vraiment dedans, là, on rentre dans le truc.
Mais là, on se demandait, ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'Anne-Marie Jobin?
Ben, ça dépend des périodes. Je suis assez solitaire, j'ai besoin de beaucoup de temps toute seule. Fait que je peux pas être tout le temps dans des réunions, tout ça. J'aime pas les réunions. Là, j'ai une équipe qui travaille avec moi, fait qu'ils me demandent, ils me forcent à faire des réunions. J'aime ça avoir des semaines complètes avec rien à l'horaire, parce que là, je peux plonger, je peux tester mes exercices, tester mes ateliers, je peux écrire tout ça, gérer les emails puis tout ça. Donc, ça ressemble, je me lève très tôt, fait que je peux être à l'atelier à 6h30. Puis là, je fais mon café, mon journal. Je peux prendre 1 heure, je peux prendre 2 heures des fois. Ça dépend. Des fois, je prends juste 5 minutes. Là. Mais je prends mon temps pour entrer dans mon... Puis là, je regarde... fait que je fais beaucoup d'emails quand même. Je fais beaucoup de travail de rédaction, de contenu, de la formation, de mise à jour, de réponse aux questions des étudiants. Là. Ça, je suis très active avec ça aussi. J'ai plusieurs cours en même temps, des cours tout public, puis la grande formation. Donc ça, je passe beaucoup de temps sur les forums à répondre aux questions. Puis je m'occupe de mes adjointes, évidemment, puis de mon équipe. Là. Donc il y a du temps passé administratif, que j'aime moins, mais que quand même, il faut le faire, que je délègue de plus en plus. Donc, en gros, là, ça ressemble à ça. Beaucoup de temps, je prends une marche, je suis très concentrée dans mon travail. Fait que j'arrive tôt, je commence tôt, mais je fais la sieste dans le milieu de la journée. C'est très... Les gens, souvent, ils pensent que je suis tellement occupée, puis c'est vrai. Mais en même temps, c'est très organique comme journée, puis je fais beaucoup de... je fais beaucoup de création parce que je teste tout ce que je propose. Puis je le teste plusieurs fois à chaque... Fait qu'un cours qui dure 5 leçons, là, un cours en ligne tout public, là, ça me prend des mois à le préparer. Je teste, j'écris l'exercice, je crée des pièces, des illustrations pour accompagner les exercices. Puis là, je teste, je reteste. Et selon le cours, là, des fois, c'est des choses que j'ai enseignées il y a 10 ans que je reprends, c'est moins long. Mais même ça, c'est toujours quand même pas mal long. Puis après ça, il y a des séances de tournage. Ça va être 2-3 jours de suite, puis ça va tout manger ma semaine, si on veut. Là. Je vais me préparer, tout préparer les images à l'avance, me préparer mon contenu, préparer le cahier, puis là, on tourne. Donc ça, c'est... Il y a des périodes comme ça. Puis il y a des périodes un peu de voyage. Là. Il y en a eu moins depuis 2020, mais ça recommence. Donc là, c'est complètement autre chose comme horaire. Donc je m'en vais avec quelques affaires dans ma valise. Puis là, j'anime... à distance. Donc ça, il faut que je sois prête avant de partir. Je suis allée, par exemple, au Mexique cet automne, former un groupe de Mexicains. Bien là, c'est comme 1 mois avant de partir. Il faut que je prépare le matériel, tout en suivant les cours qui sont en cours. Là. Fait que c'est un mélange, mais je suis beaucoup toute seule, puis je suis beaucoup dans la création, puis dans la rédaction, puis dans les suivis de forums et tout ça.
Ça répond un peu à ton esprit nomade aussi, de pouvoir utiliser le voyage dans ta pratique?
Ah ben, c'est venu aussi tout seul sans que je le planifie. Mais j'ai eu mes enfants, j'ai eu deux enfants à tard, là, fin de la trentaine. Donc, j'ai pas voyagé pendant 10 ans. Là, j'étais à mon atelier ici à Granby, puis à la maison. Puis ça s'est fait très graduellement. Je travaillais juste à temps partiel. Justement, les ateliers en santé mentale, en centre de femmes, j'en avais 2-3 par semaine. Après ça, j'avais 1 ou 2 clientes. Après ça, c'était très, très graduel. Ça s'est fait vraiment très graduellement en même temps que les enfants. C'est comme si quand ça a débloqué en 98, là, j'avais déjà 35 ans. C'est-tu ça, 35? Bon, je pense à peu près.
Je pense que c'est ce que tu dis dans tes livres.
Ouais,
tu te suis.
J'ai eu mon premier fils à 36 ans. Donc, quand ça a débloqué, tout a débloqué. Mm. Donc, même les enfants sont arrivés. Mm. Parce que ça marchait pas avant. Mm. Fait que c'est ça. Ça s'est fait très graduellement. Fait que là, j'ai pas voyagé. J'avais en tête peut-être un jour, mais là, les Européennes qui m'écrivaient quand le premier livre est sorti en 2002, allez-vous venir, puis que je ramassais les noms, mais c'était même les débuts d'Internet, là, j'étais pas très organisée pour ramasser les noms. Fait que là, ça commençait ramasser les emails, puis là, je me disais, ah, peut-être, il y en avait qui m'invitaient, là, c'est un peu plus, je peux aller vous chercher, je pourrais vous héberger, tout ça. Donc là, ça a commencé comme ça, très, très doucement. Fait que je suis allée la première fois en 2008.
OK.
Là, en 2008, j'ai recommencé. Bon, mon deuxième, il est né en 2003. Fait qu'il y avait 5 ans, j'ai commencé à revoyager, là. Mm. Puis je suis allée aux États-Unis à quelques conférences avec Kathleen Adams, qui a développé la journal thérapie. Puis là, j'ai commencé à me promener comme ça un peu plus, là.
Mm.
Fait que oui, ça va chercher mon côté... Je suis pas une touriste, là. Je suis pas vraiment une voyageuse touriste. Je vois pas grand-chose quand je vais... J'ai une amie belge là, qui m'a invitée souvent chez elle. Là. Je voyais juste son atelier de saco puis le prendre une marche dans son village. Mais j'aime beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça, me promener. Puis,
De bouger.
Oui. Mm. Oui, puis transmettre plus... de sentir le mouvement de domino un peu que je vais quelque part, je forme des gens, puis eux autres... Au Mexique, c'est fabuleux parce que là, les gens sont dans une petite ville, c'est pas touristique non plus. Puis ils s'en vont dans les barrios, là, dans les quartiers pauvres autour. Wow. Puis là, les enfants dans la montagne arrivent, puis ils vont faire du journal créatif.
Incroyable.
Ils arrivent sur une espèce de terrain vague avec un toit, là. Puis là, ils s'en vont faire du journal créatif. Moi, je suis là, puis wow! C'est ça que je trouve le plus beau de c'est ça qui m'impressionne le plus. Bon, en Europe, c'est autre chose, mais quand même, je vois plein de gens qui s'en vont dans leur milieu, puis il y en a qui travaillent en prison, il y en a qui travaillent en milieu hospitalier, il y en a qui travaillent avec les enfants, il y en a qui travaillent avec les ados, il y en a qui travaillent avec leurs amis. Il y a de tout, là. Fait que là, je vois ce qu'ils font, puis je suis épatée, là. Ça, c'est l'affaire qui me fait le plus plaisir.
D'ailleurs, comment ça s'est passé, ce lien-là avec le Mexique? Est-ce que tu as enseigné en espagnol ou en anglais? Je suis comme...
C'est en espagnol, là, mais c'est moi, j'ai voyagé avant. Là.
Okay.
Je parlais pas mal en 98, là, avant de...
OK.
Avant de débloquer un journal créatif. J'étais allée 2 mois et demi au Nicaragua vivre dans une famille. En tout cas, je parlais un peu, mais je parle pas tant, je parle pas si bien que ça, là, puis je comprends pas tout. Mais il y a un homme qui a été formé avec moi au Journal créatif en 2010, qui a suivi plein d'ateliers avec moi. Puis lui, quand il a pris sa retraite, il s'est mis à aller là-bas. Puis il s'est dit, je vais faire des petits ateliers. Parce que c'est comme un genre de centre communautaire dans cette ville-là. Puis donc lui, il s'est mis à faire ça, puis ça a marché. Il s'est mis à appeler. Il a dit, hey, j'aurais du monde qui voudrait être formé. Fait qu'il y a une Mexicaine qui parle français, qui enseigne le français, qui a tout traduit bénévolement. Donc, c'est devenu un genre de projet humanitaire pour moi. Elle a tout traduit bénévolement, le matériel. Puis, je suis allée une première fois en 2018, puis c'était 12 de personnes. Fait que ça a été vraiment... mais ça s'est tout fait en espagnol, ouais.
Wow!
Puis là, eux autres, la douzaine de personnes ont commencé à former plein de monde. Puis eux autres, ils ont beaucoup de groupes de jeunes, ils ont un camp d'été, ils ont plein d'affaires comme ça. Fait que là, il y a du journal créatif partout dans cette petite ville-là.
Wow.
Fait que ça c'est comme un vrai cadeau pour moi. Là, j'ai dit à Yvon, là, cet homme-là, « Ah, je vais y retourner! » Il dit « Ah, je pense qu'on aurait un deuxième groupe. » C'est des petits groupes, ils sont 10, puis c'est comme...
Donc, c'est retourné en 2023.
Je suis retournée en 2023, ouais. Wow. Je suis retournée au mois de novembre. Là.
Incroyable.
Fait que là, je les suis à distance, mais je vais juste une fois. Je vais juste les démarrer. Puis là, la Martha, la Mexicaine, puis Yvon, ils font tout le reste de la formation, puis moi, je travaille avec eux autres.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est comme un peu un plus, là.
Oui, une collaboration.
Oui.
Wow. J'ai envie de passer à un sujet qui, je pense, nous tient tout à cœur, qui est la créativité. Mm-hmm. Donc, je rentre dans un segment de questions qui s'éloigne un peu du clinique, mais j'étais curieuse de savoir, justement, parce qu'on voit bien là, que ta vie créative est très riche, que ça évolue à travers le temps, et j'étais curieuse de t'entendre sur qu'est-ce qui t'inspire en ce moment dans ta vie créative. Est-ce que tu as des nouveaux thèmes ou même des lieux qui t'inspirent en ce moment?
Bon, moi, le lieu de mes rêves de nuit et de jour, c'est le bord de l'eau, c'est le bord de la mer. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme l'affaire que j'aimerais faire, c'est avoir comme une année là, où je pourrais venir vivre au bord de l'eau, puis écrire, puis faire des trucs en ligne peut-être. Là, mais ça, c'est peut-être le morceau. Ça, c'est le lieu. Sinon, les sujets, comme je m'intéresse de plus en plus aux sujets plus spirituels, là, plus ouverts, sans vouloir, ce mot-là, il est tellement glissant, je ne sais pas trop comment en parler. Mais comme je disais, je me suis beaucoup intéressée à l'approche, le travail de Byron Katie, qui est un travail sur les pensées, mais qui est aussi, elle, c'est une femme qui a eu vraiment une expérience d'éveil radical. Donc, je m'intéresse beaucoup aux personnes qui ont eu des expériences d'éveil. C'est mon prochain sujet sur lequel je travaille.
OK.
Sans vouloir moi-même avoir l'éveil puis partir dans un truc de... C'est très glissant, ça aussi, là, l'éveil, là, vouloir être éveillé. Mais c'est mon sujet en ce moment. Je ne sais même pas trop encore comment parler. C'est nouveau, mais j'ai commencé. J'ai tout un brouillon, un squelette de livre. C'est mon prochain sujet.
Mmh.
Fait que c'est un peu comment faire pour être plus connecté au cœur, pour être plus connecté à qui on est vraiment en dehors de tous nos costumes. En gros, c'est ça, là. C'est tous les costumes de l'ego, finalement, de la personnalité qu'on se crée pour survivre, qui sont nécessaires, qui sont à aimer, qui sont pas à rejeter. C'est comme tous mes costumes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que évidemment, ils nous nuisent dans le relationnel, dans tout. Comment je peux faire pour être plus dans le cœur, puis dans vraiment ce qui est essentiel pour moi? Puis comment mon journal peut m'aider à... Fait que c'est vraiment le cœur, l'amour, la lumière. C'est des gros thèmes, là. Fait que je suis pas rendue loin. Mais ça, c'est mon dada en ce moment. Donc, j'écoute beaucoup, j'achète des livres, j'écoute beaucoup de gens qui ont eu des expériences d'éveil. Mais je veux pas que ça soit un livre sur ça exactement, là. Mm-hmm. Je l'ai appelé le journal du non-éveil. C'est mon titre de travail, là. Je dis ça dans le podcast, ça va faire le tour.
On va
je
rester disais,
dans
à
le fond,
plus.
Je veux pas ça parce que quand tu cherches l'éveil, c'est comme si t'allais en sens inverse, là, parce que t'es en train d'essayer d'avoir qu'est-ce que t'as pas.
À force de trop chercher, on trouve pas,
Oui, puis on n'est pas... Oui, c'est ça. Puis je suis vraiment avec aimer qu'est-ce qui est là, même mes travers.
Mm-hmm.
Puis ça me fait relaxer, puis ça fait que tout à coup, j'ouvre plus.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est un peu mon thème en ce moment. Là, j'aime beaucoup les thèmes de nature. Fait que j'ai fait des ateliers sur la paix, là, trouver la paix en dedans de soi. Nature connectée avec le paysage, ouvrir les perceptions. C'est aussi sortir du personnage, là, sortir de l'ego du personnage, puis connecter avec plus grand... qui inclut la nature.
Mm-hmm.
Donc, aller... Fait que ça, dans mes ateliers, dans les derniers, j'ai fait ça quand même régulièrement, aller dans... dessiner un paysage sans regarder, puis après ça, le faire parler. J'ai beaucoup aimé le travail de Mary Reynolds Thompson, une Britannique qui est aux États-Unis. Puis elle travaille sur le paysage comme archétype. Ça, j'ai beaucoup été inspirée par ça. Donc, la forêt, c'est un archétype. Je peux aller me connecter à la forêt, faire parler l'esprit de la forêt, entre guillemets. La mer, la même chose, la montagne, le désert. Donc, elle travaille avec ça. Puis ça m'a ouvert sur le fait que mon petit personnage est limité. Puis si je m'en vais m'asseoir avec mon journal au bord de la rivière, j'ai un problème dans ma vie avec mon fils, n'importe quoi. Puis je demande à la rivière, elle va me dire, elle va me donner, elle va me conseiller. Donc tout ça est dans mes derniers sujets qui m'intéressent, là. Travailler avec les pensées, retourner notre vision, là.
Mm-hmm.
Sortir de la victime.
beaucoup à faire.
Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de thèmes à explorer, mais c'est des belles pistes.
Oui, on a hâte de découvrir ça. On a comme accès un petit peu à...
Ben oui, là, je dis ça. Sans trop réfléchir, je n'en ai pas parlé à grand monde parce que je trouve que c'est un sujet qui peut être bizarre.
Mais t'as bien dit, le projet. C'est le titre de travail.
Oui, c'est hein? ça. Ouais. Mais j'ai un autre projet qui s'en vient avant Vas-y. Ça, wow. qui est prêt, là, que je viens de terminer, qui s'en va se faire imprimer, qui va être à...
Un scoop!
Ah oui, un scoop! C'est un jeu de cartes qui va avec le livre Le Nouveau Journal Créatif. Donc, c'est un jeu de 44 cartes. Fait que c'est comme les cartes, toutes les cartes d'oracle, tout ça, mais c'est pas un oracle, là, de développement personnel, peut-être, mais ça va avec le livre. Fait qu'il y a 44 cartes, donc il y a 4 thèmes. S'exprimer, approfondir, relaxer, puis jouer. Fait qu'il y a 11 cartes de chaque. Puis un livret, tu vas dans le livret, puis disons que tu tires la carte, je sais pas, je dis n'importe quoi, le gribouillis, tu vas dans le livret, puis il y a 3 autres idées qui vont avec la carte. Oh. Et les cartes, là, je les ai vues juste cette semaine, le graphisme, ils sont magnifiques, là. Ils sont vraiment belles.
Ça sort quand?
Ça sort, je pense, en octobre. Au Québec, puis un peu plus tard en Europe. Là.
Okay. Pour vos prochains cadeaux de Noël.
Oui, ouais, c'est ça.
Restez à l'affût.
Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais faire il y a 10 ans. J'en avais parlé à l'éditeur qui ne faisait pas ça à l'époque. Puis là, c'est eux qui me sont revenus. J'ai dit « Non, moi, je fais mon livre sur l'éveil. » Fait que là, on a discuté, puis j'ai accepté de faire... Parce que c'est pas si long, là, d'écrire 44... Mais j'ai tout testé aussi, la même chose, là.
Wow.
Rédigé, testé.
Puis est-ce que t'avais quelqu'un pour illustrer?
Oui, c'est le graphisme, le graphiste chez l'éditeur.
OK.
Fait que moi, j'ai pas fait... Bon, il s'est servi de certains de mes dessins qui sont dans mes livres, là, mais il a fait... C'est lui qui a fait la job.
Wow.
C'est lui qui a illustré Les Portes de la Nuit. Puis moi, c'est mon livre préféré. Fait que j'ai dit, ah, si ça peut être François qui fait mes cartes.
Ah,
donc,
un peu la même signature. Oui. Ah, j'ai hâte de voir.
Les belles couleurs,
toucher,
à mon goût, là, il est à mon goût. Il ne peut peut-être pas plaire à tout le monde.
Ben, c'est comme le plus important, tu es la créatrice. Alors, le reste suivra, je suis certaine. En parlant de création, dernière question sur le sujet de la création en tant que telle. J'étais curieuse de t'entendre sur si tu as un rituel de création qui te permet de te mettre en action, quelque chose que tu fais là, de façon répétitive ou des trucs pour se mettre en action par rapport au journal créatif là, ou à la création.
Bon, c'est sûr que le journal créatif, pour moi, c'est tellement intégré que j'ai pas d'effort à faire. Ouais. Si je saute une journée ou deux, là, ça peut arriver, j'ai hâte d'y retourner, ça me manque.
Mm.
Donc, j'ai pas d'effort à faire. Par contre, je peux avoir régulièrement, je suis un peu agitée, là, je vais regarder mon téléphone, ce genre de truc-là que tout le monde a un peu. Là. Donc, il faut que je me donne quand même des moyens pour pas que je fasse juste rester en surface. Parce que là, c'est pas ça l'effet que je veux. Je veux que ça m'ancre. Mm. Donc, je vais... si je sens que je suis en surface, je vais utiliser la respiration, je vais mettre une bougie, je peux mettre de la musique. Je me fais comme une ambiance, puis je mets mon téléphone loin, là, je le laisse dans mon sac, dans ma poche, puis je l'éteins, puis... Donc, ça va m'aider beaucoup, là. J'ai aussi plein de déclencheurs, j'ai des petits paniers avec des images, des mots. Donc, ça va m'aider aussi. Toutes les techniques un peu inhabituelles, au lieu de juste écrire « je me sens comme ça », comme le journal conventionnel, on a tendance à commencer tout le temps de la même manière. Je vais faire, par exemple, tomber des taches d'encre, puis là, je pars avec ça. Fait que ça peut être très, très simple. Tomber des taches d'encre, je vois quelque chose dedans, je me mets à écrire autour, puis au lieu d'avoir juste commencé avec la page blanche, j'avais quelque chose pour démarrer. Ou prendre une image au hasard, ou la choisir. Je la colle, puis je pars avec ça. Donc ça, c'est des trucs qui aident beaucoup. La respiration, je dirais que ça aide vraiment beaucoup aussi. Là, ça peut être juste 3 minutes de cohérence cardiaque avant de commencer pour pas... C'est comme si, des fois, je dis, c'est comme un raccourci, j'ai pas besoin d'écrire « Oh, ben là, je me suis réveillée à cette heure-là. » Parce qu'on dirait que j'ai tendance à faire ça normalement, de comme écrire ce qui se passe. Puis c'est pas vraiment intéressant comme contenu. Donc, je respire, là, 3 minutes, puis après, tu commenceras. Puis commencer avec une tache de couleur au lieu des mots... Rajouter les mots après, c'est le genre de truc qui va m'aider.
Mm-hmm.
C'est toujours la notion, puis je le dis souvent aux gens qui veulent commencer, qui ne savent pas commencer, qui ne savent pas comment commencer, c'est le tout petit pas, là. C'est vraiment une tache de couleur, une image. On ne se stresse pas avec qu'est-ce qui va apparaître sur la page. on le fait pour le processus, pour se connecter.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, les tâches, les petits déclencheurs, ça aide beaucoup.
Génial. Oh, ça donne des idées. Je me vois là, me préparer quelques petits déclencheurs. Parce que je pense que c'est un défi pour beaucoup mm-hmm. de personnes. Je m'inclus là-dedans. de se discipliner ou justement d'arriver à un momentum où est-ce que tu n'as plus besoin d'y penser. Mm-hmm. C'est un peu ça l'objectif, mais pour se rendre là, des fois, ça prend
avoir un petit coin qui est dédié, ça peut aider beaucoup aussi, où il y a déjà des pots avec des crayons, puis ton cahier est là, ça peut aider
ouais.
à y penser, parce qu'on passe à côté, puis on le voit, tiens, je vais faire une page.
Ouais.
Souvent, je dis aux gens aussi, il y a des gens qui ont peur de ce qui va apparaître sur la page. Fait que ça peut créer des mécanismes de défense. Mais je dis, mais faites une page juste pour relaxer, juste mm-hmm. des images que vous aimez, juste des couleurs que vous aimez,
mm-hmm.
juste pour relaxer. Dessinez la plante qui est sur la table hein, sans regarder. Fait que ce genre de truc-là va aider à se détendre avec le processus.
Mm-hmm.
On n'est pas obligé de plonger super creux tout le temps. Là, on peut faire juste des pages tranquillement.
Mm-hmm. Le plus petit pas, comme tu mm-hmm. disais.
Comment entrevois-tu l'avenir de ton école, du centre de formation à Journal créatif, disons dans 20 ans, 50 ans, 100 ans?
100 ans. 20 ans, ben, j'ai 60 ans. J'ai eu 60 ans cette année, l'année passée, je vais avoir 61. 20 ans, ben, je pense que c'est ma blague en ce moment quand les gens disent « Vas-tu prendre ta retraite? » Je dis « Non, 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 moi je suis comme Charles Aznavour, je vais chanter jusqu'au bout. » Puis c'est vraiment, je me vois pas arrêter de faire ça, mais il y a des gens qui me le demandent quand même, il faudrait ralentir, il faudrait faire... Mais pour moi, le travail puis la vie, c'est tellement connecté. Quand je suis en congé, je peux avoir envie de travailler dans un sens, bon, peut-être pas faire les trucs administratifs, mais dessiner, essayer une idée. Donc oui, dans 20 ans, je devrais être si ma santé est là, je vais être encore là probablement. Ça change tout le temps. Hein? Depuis 10 ans, comment ça a changé? Je me dis, bon, je ne sais pas où je vais être dans 10 ans, 20 ans. Des fois, je pense un peu à la relève. Je regarde les jeunes là, qui font la formation.
Mm-hmm.
Je dis, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait la fibre pour reprendre ça? J'ai aucune idée, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec l'entreprise. Là.
Mm-hmm.
Ça va dépendre vraiment de... Mais dans 100 ans, c'est intéressant comme question.
Est-ce que tu te vois, par exemple, léguer ou laisser d'autres professionnels prendre la relève? Ou...
Ben oui, je pense que ça serait logique de... Je pourrais être toujours en vidéo, là, même si je suis morte. Mais il y a quelque chose de... Je peux regarder d'autres approches qui ont été comme ça initiées par une personne ou quelques personnes. Disons, je sais pas, la communication non violente, Marshall Rosenberg, il a formé du monde, ça continue sans lui. La même chose, bon, il y a des approches qui se sont moins épanouies, où il y a eu des mécanismes de protection du nom qui ont fait que, je pense au journal intime intensif de Progoff, ça s'est pas tant répandu. Mais moi, j'espère pour le journal créatif que ça va juste continuer à se répandre, parce que c'est ça le but, de donner des outils.
Mm-hmm.
C'est sûr que on a choisi en 2006 de faire une marque de commerce avec le mot. C'était parce que les gens qui faisaient la formation voulaient se différencier des gens qui ont les livres. Puis moi, je dis, je veux jamais empêcher des gens qui ont les livres. S'il y a une prof de quatrième année qui veut faire du journal créatif avec ses élèves, qu'elle en fasse, là, on va pas l'empêcher ça, là. C'est bon pour les enfants. Mais les gens qui veulent annoncer des ateliers de journal créatif, il faut qu'ils aient fait la formation.
Mmh.
Puis aussi, il y a beaucoup de mécanismes de sécurité dans la formation pour ne pas gaffer avec un outil comme ça où il y a des zones grises.
Mmh.
Puis je dis souvent que le journal créatif opère sur un continuum. Il y a un aspect très ludique, léger, créatif, puis un aspect qui peut aller jusque dans le thérapeutique. Il y a plein de thérapeutes puis d'art thérapeutes qui font la formation. Bien, ils l'amènent dans leur cadre thérapeutique puis ils font ce qu'ils veulent dans ce cadre-là avec leurs balises. Puis il y a la zone grise dans le milieu, comme développement personnel. La gestion des émotions, s'exprimer avec des crayons, ça appartient à tout le monde, c'est pas réservé.
Mm-hmm.
Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à certaines choses pour pas glisser dans le thérapeutique quand on n'est pas équipé. Donc j'en parle comme ça. Fait que j'espère que ça va continuer à se répandre. Oui, j'aimerais ça le léguer ou le vendre ou je sais pas quoi à quelqu'un qui voudra continuer, là. Puis il y aurait moyen de planifier, peut-être dans quelques années, quand je serai prête, de planifier ça un peu, de dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce que la personne va faire. Je sais pas, c'est ouvert. Mais je veux que c'est sûr que c'est un outil de travail. C'est comme chouette que ça continue, là. Comme la CNV, comme plein d'autres outils, là. Le travail de Byron Katie, ou qu'il y ait des gens qui... Puis après, ça se transforme.
Donc, on était curieuse, en regardant l'ensemble de ton œuvre, on remarque qu'avec toutes tes démarches de création d'une marque de commerce, de création du centre de formation, d'une plateforme en ligne, on voit que tu portes plusieurs chapeaux. Il y a le chapeau, oui, de la thérapeute, de l'artiste et l'entrepreneur. On ne peut pas passer à côté. J'étais curieuse de savoir, est-ce que tu as toujours été à l'aise de porter ce chapeau-là, l'entrepreneur?
Pas du tout. Vraiment pas du tout. Puis je me rappelle d'un moment précis. Dans mon ancien atelier, là, j'avais un hamac. J'étais couchée dans l'hamac, je me disais, oh mon Dieu, je suis devenue une femme d'affaires. Ça m'avait fait comme un choc, parce que quand j'étais ado, j'étais plutôt genre grande jupe et bottine, là, grano. Puis je voyageais, puis tout ça, puis je m'arrangeais tout le temps. J'étais très bohème. Fait que là, quand je pensais jamais à femme d'affaires. Puis là, j'ai un de mes grands-pères qui a fait beaucoup d'affaires qui s'appelle Henri. Puis quand j'étais couchée dans la marque, j'ai dit, ah ben ça, c'est Henri. Mais souvent, là, quand il y a eu des pépins puis des difficultés, j'avais vraiment pas envie d'être une femme d'affaires. J'avais envie de mettre la clé dans la paille. Là, si je commence à avoir des affaires comme ça qui arrivent, puis je me disais tout le temps, non, tu te tais et tu continues parce que je vois qu'est-ce que ça fait. Je vois que ça se transmet, que les gens ils se sentent mieux, que c'est un outil de mieux-être, tout ça. Fait que je me disais, non, tu continues, tu vas te faire aider. Fait que j'étais allée chercher de l'aide. À un moment donné, j'allais chercher un avocat, Fait que c'est des trucs qui sont difficiles, mais il y a eu ce moment-là où j'ai dit, OK, t'es devenue une femme d'affaires, c'est bon, on continue. Mais c'était comme un peu un choc, ça allait pas avec l'image que j'avais de moi-même puis de ma carrière. Mais oui, c'est sûr que... Puis les gens me posent souvent des questions, comment tu fais pour ça, comment tu charges pour ça, puis que... Fait que c'est avec... j'ai appris sur le tas, j'ai pas pris de cours de rien là, pour ça, là. J'ai vraiment appris une étape à la fois, puis résoudre un problème à la fois. Ce qui fait qu'au fil du temps, ben... Mais je suis bien entourée, hein. J'ai une équipe de 3 personnes maintenant... donc, c'est pas moi qui m'occupe de tous les contrats, les machins comme ça. J'ai d'autres gens qui font ça.
Ça, c'est venu avec le temps, j'imagine,
c'est au venu départ, avec le temps, puis évidemment avec le revenu, là, parce qu'au début, j'avais quelqu'un 5 heures semaine, 10 heures semaine, 15 heures semaine, avant d'avoir quelqu'un à temps plein qui Là, c'était plus le secrétariat au début. Mais après, avoir quelqu'un qui pense avec moi, là, ben, ce qui aide beaucoup, c'est que c'est mon conjoint là, c'est lui qui fait la vidéo. C'est à cause de lui que j'ai commencé à faire les cours en ligne. Parce que lui, il faisait de la vidéo pour la télé communautaire, il faisait des projets. Puis là, il y a un moment où on a dit, on devrait filmer un de tes cours. Puis là, on l'a fait. Puis là, ça a bien marché. Puis on s'est dit, on devrait en faire d'autres. Puis là, il y a un moment où j'ai dit, tu devrais plus prendre des contrats ailleurs parce qu'on a trop de travail.
OK.
Donc, c'est lui qui est vraiment avec moi. Puis les décisions administratives, les contrats, les trucs légaux, les trucs de communication. Donc, fait que lui est allé chercher d'autres personnes après. On a une autre personne plus au service à la clientèle. Puis on a une autre personne avec la technologie. Là. Bien, là, ça grossit comme ça tranquillement. Ça me fait toujours un peu peur. Mais fait que c'est venu avec le revenu pour avoir la possibilité d'engager du monde. Puis ça, le revenu est venu avec la formation, avec les groupes de formation qui sont de plus en plus gros. Parce que quand j'ai commencé, je pouvais avoir 12 personnes dans un groupe. Là, là le prochain groupe qui commence en janvier, il y a 88 personnes. Là, c'est le gros maximum. Là. C'est tout en sous-groupes. C'est des sous-groupes de 22. Puis là, on a une liste d'attente.
Wow.
Donc ça fait un surplus de revenus qui fait qu'on peut engager du monde.
Donc, le mode en ligne a été favorable pour la croissance de ton entreprise.
Très favorable,
et
oui.
bien avant la pandémie et les services en ligne qui se sont développés, c'est
oui, on a peut-être commencé en 2015, là, les cours en ligne tout public, je pense à peu près 2015. Mais oui, ça a été... d'abord, l'avènement d'Internet a beaucoup facilité. Ça, c'était plus début 2000. Puis après ça, 2015, les cours en ligne, la vidéo. je voyais d'autres mondes qui faisaient ça, puis je les enviais un peu. Ah, ça serait bien, tout ça. Moi, je prenais des cours avec de dessin avec telle personne, puis fait que ça marche bien avec ce que je fais. Puis on peut prendre plus de monde quand c'est pas dans un local. Dans le local, je prenais 16-20 personnes, puis là, tout à coup, il peut avoir 50 personnes dans le cours. Donc là, ça fait du revenu. Il y a aussi que les cours qu'on enregistre, on peut les reprendre plusieurs fois. Tant qu'il y a des inscriptions, on peut les reprendre deux fois par année. Puis quand ils sont moins populaires, on les passe à une fois par année. Donc, puis plus ça avance, plus on a une banque de cours déjà montée.
Ben oui.
De temps en temps, il y en a un que je me dis, oh, il faudrait le refaire ou on le laisse tomber parce qu'il est dépassé. Mais en gros, il roule. Il roule, puis...
Donc, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps aussi, tu sais, de ce que j'entends. Tu sais, quand je te posais la question, oui, est-ce que tu as toujours été à l'aise? Tu me dis non. T'sais, ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont aidé? Bien, j'entends le réseau, tu sais, d'avoir un bon réseau, d'être bien entouré, mais j'entends aussi qu'il y a quelque chose qui se crée avec le temps, le cumul du réseau, des ressources, de la formation, de ton contenu qui fait que tu peux réutiliser. Donc, il y a comme un processus de développement à travers le temps qui demande simplement de laisser le temps.
Oui, puis ça s'améliore d'année en année aussi. C'est que le contenu, il est toujours revisité, amélioré. Je rajoute des pages, je rajoute des bouts. Je refais des enregistrements. Donc, il y a quelque chose de très... Plus ça avance, plus je sens que je maîtrise mon contenu. Donc, il y a une solidité qui fait que le gros groupe ne me fait pas peur. Au début, j'aurais eu peur avec même 30 personnes. J'aurais pensé que je ne peux pas faire ça. Mais là, comme je sens que je maîtrise mon contenu, mais il n'est pas figé, il va toujours continuer d'évoluer. Parce que je lis des trucs, je teste des trucs. C'est intéressant, c'est très vivant, en fait. Puis il faut, s'entourer, laisser le temps, gagner notre expérience.
C'est ça.
Puis quand on connaît un peu les ficelles, les lois, tout ça, il faut connaître les lois, les taxes, les machins. Il y a plein de trucs là, qui, au début, c'est une montagne. Quand je chargeais des taxes, là, je ne voulais pas charger de taxes, mais ça veut dire que tu vas rester avec un petit revenu.
Oui.
Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est une bonne nouvelle, charger des taxes, ça veut dire que... T'as plus de revenus. Puis il y a le réseau, j'étais allée un truc, j'avais donné un atelier au réseau de femmes d'affaires du Québec. C'est là que quelqu'un m'avait dit ça. Quelqu'un qui était plus à l'aise avec les chiffres que moi. Donc, il y a toute une mentalité que j'ai fini par être plus à l'aise avec. Ben, c'est bon de réussir, c'est juste positif que ça marche parce que j'engage du monde, ça crée de l'emploi, parce que ça fait que je multiplie les personnes qui vont transmettre l'approche. C'est une approche qui marche bien avec plein de monde. Fait que c'est pas une pilule miracle, mais c'est quand même, ça marche bien avec plein de monde parce que c'est très, très flexible, puis il y a plein de techniques possibles à utiliser, puis on peut le mettre dans plein de cadres différents.
Est-ce que tu avais encore envie d'aller avec la question sur les plateformes, Marie-Soleil? On voulait toucher à ça.
Je sentais que tu en avais un peu glissé un mot sur les vidéos et les ateliers préenregistrés que tu as rendus accessibles en ligne. Est-ce que ça a été un défi d'enregistrer?
La technique, c'est souvent un défi parce qu'il y a des bugs. Puis j'ai eu la première plateforme, c'était une plateforme gratuite, là, PHP bébé. C'est quelqu'un qui me l'a monté. Puis là, mais j'arrive pas à suivre. Moi, c'est pas mon domaine, ce truc-là. Fait qu'il fallait toujours que j'engage quelqu'un pour arranger les bugs. Donc oui, il y a plein de défis avec les plateformes. Ils sont pas toujours très optimales pour l'utilisateur. Donc, les gens se plaignent qu'ils ne peuvent pas mettre des images. Fait qu'il y a tout ça qui est vraiment... C'est pas Facebook, là. Facebook, ils ont mis des millions là-dessus pour développer ça, que tu mets ton image puis tout se reformate. Donc, il y a des défis techniques, il y a des bugs. Là, c'est mieux ce qu'on a, mais il y a encore des défis. Puis on pensait que ça réglerait tout, mais il y en a encore. Donc, c'est sûr que moi, je gère pas tout ça. Il faut avoir quelqu'un qui gère les... Mais bon, c'est quand même assez fluide, ça va bien. Puis ça s'est amélioré, puis le visuel est plus beau. Mais oui, il y a plein de choix, puis il y a des gens spécialisés là-dedans. Il faut, à un moment donné, il faut se faire aider si c'est pas notre tasse de thé.
Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que c'est correct de faire la sieste au travail.
Oui!
On demande de l'aide pour tout ce qui est technique puis tout ce qu'on veut pas faire.
Moi, je retiens aussi que c'est possible d'être une femme d'affaires dans un hamac.
Ouais. Ouais.
Ah oui! C'est une belle image! Il y a des réseaux, là. Il y a un groupe Facebook de femmes d'affaires. Là. Tu mets ta question là-dessus.
Femme de tête, je pense.
Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est hyper utile. Uh-huh, puis tu trouves plein de ressources. Fait que ça, c'est bon à savoir, ce genre de truc-là. Oui, femme de tête, c'est
vraiment.
Ça.
De trouver des alliés, hein.
Hey, merci, Anne-Marie.
Donc, Anne-Marie, on est rendu au deuxième bloc de l'entrevue qui va être finalement notre conclusion. On va te poser des questions en rafale. Donc, on te dit un début de phrase et tu formules la fin de façon très spontanée, presque association libre sur un divan, là.
OK?
OK. Donc, nous, on va pas commenter, puis on va juste passer une question une après l'autre. La première, c'est « Pour moi, l'art-thérapie, c'est... »
Pour moi, l'art-thérapie, c'est vraiment une façon de mettre l'invisible dans le visible pour faire un travail de connexion, d'unification, de guérison.
Pour moi, être art-thérapeute, c'est?
Pour moi, être art-thérapeute, c'est transmettre des outils de mieux-être, être au service de la transformation du monde, peut-être. C'est un peu ambitieux.
Pour moi, le processus créatif, c'est?
Le processus créatif, c'est vraiment donner la vie, pour moi, sentir ses élans puis les mettre en forme dans la matière. Donc, sentir l'esprit puis le mettre dans matière.
Une image, symbole qui représente mon travail, ma perception de mon rôle comme art-thérapeute.
La première image qui m'est venue, c'est une carte de tarot, c'est le magicien, la carte numéro un, le battleur, qui a tous ses outils sur la table. Donc, il est debout, là, puis il fait de la magie et une baguette avec tous ses outils. Donc, c'est ça, mon travail, c'est comme transmettre des outils ou inviter les gens à venir à table essayer des trucs. Ouais, c'est ça, c'est une bonne image, une bonne image.
Dans la même tangente, ce serait un mot ou une petite phrase ou un mantra qui te guide dans ta pratique?
Ah, je dirais connexion avec le cœur, avec l'essentiel.
Oui.
Une découverte récente que tu as faite qui enrichit ta pratique de l'art-thérapie et que tu aimerais partager avec tes collègues art-thérapeutes. Ça peut être un nouveau matériel, une technique, un exercice.
Une de mes techniques préférées, j'en parle souvent, là, je l'appelle l'alchimiste. Je crois qu'elle est juste dans la dernière version du livre. C'est vraiment prendre une page de mon journal, ventiler dessus, la déchirer en morceaux, créer un compost avec ça, un nouveau fond, mettre du gesso, empiler là, tous les morceaux, puis créer une nouvelle image par-dessus. Ça, c'est ma technique, ma petite technique chouchou, là, ces temps-ci. Donc, dès qu'il y a une page que je veux plus, je la déchire, je fais du nouveau avec du vieux. Donc, transformer le plomb en or.
Wow! On a un truc, à chaque épisode, on pose... on demande à notre invité de poser une question qu'il aimerait poser à la ou le prochain art-thérapeute. Donc, notre dernière entrevue était avec Joanne Hamel, qui te pose la question suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait encore?
Spontanément, je dirais non. Je fais à peu près tout ce que je veux à mesure. Mais ce que j'ai nommé tout à l'heure, là, passer une année au bord de la mer, ça serait ça. Pour écrire ou pour développer un contenu, pour m'amuser, là, créer. Ça serait peut-être ça. Un genre de congé d'année sabbatique, mais ouais, c'est ça.
Génial. Donc maintenant, c'est à ton tour de poser une question à notre prochaine invitée. Mystère, on ne sait pas encore c'est qui.
OK, je dirais, comment tu gardes ta pratique d'art-thérapeute vivante et connectée? Ce serait ça ma question.
Génial.
J'aimerais ça que ce soit moi l'invité pour répondre à la question. Si tu avais un conseil à donner à un ou une jeune art-thérapeute qui débute dans la profession, qu'est-ce que ce serait?
courage, un petit pas à la fois. Bien s'entourer, aller chercher de l'aide. Mm. Pour les zones où on est moins compétent. Mm-hmm. Un petit pas à la fois, là, pour moi, c'est... Mm. C'est le truc qui débloque l'action. Mm.
Mm. Puis pour terminer, une question du plus vaste. On connaît un peu les réalités de l'art-thérapie au Québec en général. Si tu avais la baguette magique qui te permettrait de réaliser tout ce que tu veux sans limite de temps ou d'argent, que ce soit pour le domaine de l'art-thérapie, ta pratique ou une population en particulier. Là, tu sais, c'est un peu comme la lampe d'Aladin, mais de l'art-thérapie. Qu'est-ce que tu ferais?
Il y a quelqu'un qui a dit ça à la dernière conférence de l'Association canadienne d'art-thérapie à Terre-Neuve, où je suis allée, là, qu'elle avait la vision, ben, je pense que c'est Monica Carpendale, qu'elle avait eu la vision qu'il y aurait de l'art-thérapie dans le moindre petit village du Canada, là, dans tous les raccoins, qu'il y aurait des art-thérapeutes un peu partout qui pourraient faire de l'art-thérapie. Puis j'ai vraiment accroché là-dessus. Je me suis dit, ah oui! Puis elle, ça l'avait aidé à avancer cette vision-là. Il y en aura un jour partout. Mm. Puis Journal Créatif aussi, je pourrais le voir partout comme ça. Ah oui, ça se répand par en dessous. Fait que ça serait la baguette magique, ça serait pas mal.
Ça serait pas mal.
Oh oui. Mm. Anne-Marie, merci. Quelle générosité, vraiment.
Merci pour ton accueil aujourd'hui, ta présence. On va avoir de la belle nourriture, en tout cas, avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, à réécouter et à partager.
Mm. Mm. Merci à vous deux pour votre belle énergie, enthousiasme, puis votre invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Merci.
Merci.